je vous présente celui qu'on surnomme en interne Monsieur Relou. Mathieu Charrier a en effet cette spécificité étonnante que s'il est extrêmement laxiste quant à ses propres performances, il est en revanche intraitable sur les prestations des autres. J'en fais moi-même souvent les frais. Un moment d'inattention et paf, la sanction.
Ça sort en avril prochain. Ça peut être le film un peu phénomène de l'année.
Et ça sort quand il y a une date ?
Avril prochain, je viens de vous dire. Si vous m'écoutez, ça sera plus simple.
Ouais, ça va, hein ? Si on peut plus faire du shopping sur Amazon pendant l'émission, quand est-ce que je le fais, mon shopping, moi ? Bon, Charrier, on vous écoute.
Oui, je voulais revenir un petit peu aujourd'hui sur ces acteurs particuliers que sont les animaux. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les tournages, on ne fait pas n'importe quoi avec les animaux. Jean-Paul pourra nous le confirmer. Nicolas Vanier explique qu'il a dû obtenir quand même 40 autorisations différentes pour pouvoir filmer toutes ses oies en plein vol de plein d'administrations différentes. Sur certains tournages, désormais, on appelle ça le challenge 3B. Parce qu'il y a bagnole, bébé et bête. C'est les trois trucs un peu énervants à filmer. C'est les trois choses difficiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 30 millions d'amis qui veillent vraiment au grain, qui vérifient sur les tournages ce qui peut se passer. Et ça permet d'obtenir, vous savez, le petit label aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage que vous voyez au début ou à la fin de certains films.
C'est vrai ça, Jean-Paul ? Il y avait quelqu'un sur le tournage qui vérifiait ?
Qui me souviens pas, qui vérifiait.
Oui, il y avait un éleveur, en tout cas.
Oui, bien sûr. Il y avait Muriel Beck qui s'occupe des animaux, souvent pour les films, en l'occurrence pour les oies, là et tout. Mais j'ai pas souvenir. Il y avait peut-être des gens qui venaient contrôler, ça, je me souviens pas.
Et aux États-Unis, il y a même l'American Humane Association qui, depuis 1972.
Parle bien,
au niveau
anglais.
Hein,
il est
polyglotte. Niveau.
Il est parfaitement bilingue.
qui vérifie tout ça. Alors, ces animaux, ils peuvent tourner que quelques minutes, quelques dizaines de minutes, faire quelques prises. C'est plus énervant qu'un acteur. Vous pouvez le faire tourner toute la journée un peu à la chaîne. Il dira trop rien si vous êtes sympa avec lui. Les animaux, il faut faire très attention.
Il faut dire aussi que Jean-Paul Roux est mieux payé que les oies dans le film.
Ça, donc, c'est pas
normal
sûr.
D'accepter de tourner plus longtemps, c'est logique quelque part.
Et puis surtout, ils ont des doublures. Vous vous rappelez du loup de Jean-Jacques Cano, on se rappelle tous du petit ourson qu'on voulait avoir chez nous.
Oh oui.
Ben, en fait, il y en avait 12 petits oursons.
12 petits oursons.
Alors, ça n'a pas été toujours le cas. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle d'une époque où aujourd'hui, les animaux, on en prend soin. À une époque, on sacrifiait des animaux sur le tournage, il faut savoir. Quand vous vous rappelez peut-être de Tarzan, c'est les singes, qui est un des premiers Tarzan, tourné en 1918. Ben, le réalisateur voulait qu'il poignarde la dépouille d'un lion. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ah oh non.
Ben, ils ont tué un lion et ensuite, ils lui ont fait poignarder la dépouille. C'était plus simple. Ben Hur, en 1925, sur le tournage, on estime qu'il y a une centaine de chevaux qui ont été tués. C'est quand même pas mal. En 1939, le tournage du Brigand bien-aimé, là, le réalisateur, il s'est dit, ça serait chouette. Vous savez, on voit souvent ça dans les westerns que les chevaux courent, et puis à un moment, ils tombent d'une falaise.
Bah, ils l'ont vraiment fait.
Bah, on s'est dit, on va prendre des chevaux, on va les faire tomber d'une falaise.
Mais ne riez pas, c'est horrible votre histoire, Nicky
Plus récemment, il y a une polémique sur le tournage.
Il n'a pas de cœur.
Hobbit. Vous vous rappelez du Hobbit ? Il y a une trentaine d'animaux qui avaient péri durant
le
tournage.
C'est des images de synthèse.
Non, il y en a.
Vous êtes tombé dans le panneau.
Des chevaux, des moutons, des oies, des poules qui sont morts parce que ça représente tellement d'animaux à faire tourner en même temps que parfois il y en a qui se retrouvent écrasés, il y en a qui tombent de le tournage. Donc aujourd'hui. La nouvelle solution des productions, c'est quoi ?
Bah,
c'est
le
de
numérique.
Se dire, on va mettre des animaux de synthèse. Alors, oui. Il y a pas mal d'éleveurs aujourd'hui spécialisés dans les animaux de tournage qui font faillite ou qui sont en grande difficulté parce que les films français, évidemment, Nicolas Vanier, c'est un amoureux de la nature, un amoureux des animaux, donc il a décidé de tourner avec des vraies oies qu'il a élevées exprès. Mais aujourd'hui, les grosses productions américaines, ils se disent, on ne va plus prendre de risques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des animaux numériques, un petit fond vert, et puis derrière, vous les rajoutez, comme ça, aucun problème.
Mais je suis sûr, Jean-Paul Rouve, qu'on vous a posé la question mille fois, là, déjà, depuis le début de la présentation du film, si ce n'était pas des images numériques, notamment les
fou.
Images de vol,
dès
à
qu'on
côté
fait...
de l'ULM avec les oies, là, c'est
aucun
incroyable.
Truc. Des images un peu extraordinaires, on se dit, ah bah, c'est une image de synthèse. C'est fou, hein, ça, aujourd'hui. Mais pour répondre à ce que vous dites, oui, les animaux ne tournent pas beaucoup, mais c'est eux qui décident, les animaux.
Oui, c'est ça.
Et en fait, les animaux, vous leur faites une fois, faire deux fois, trois fois, et après, ils ne veulent plus, en fait. Donc déjà, ça limite les choses. Et puis oui, Nicolas, il n'y a évidemment aucune image de synthèse. Et moi, je trouve qu'en effet, il y a des films, souvent les films américains, parce qu'ils ont les moyens, de faire des animaux de synthèse, et ça se voit. Je trouve qu'il n'y a pas d'âme, en fait. C'est pas super. Il y avait le comment il s'appelait ce film
on va voir si Mathieu Charrier est vraiment l'expert cinéma d'Europe. Hein.
C'est Anglie,
Pi,
oui, on l'a. Pi, dedans.
L'Odyssée de Pi.
On voit que c'est de la synthèse. Et d'ailleurs, le film n'avait pas marché, parce que je pense que ça manque d'humanité, tout simplement.
On ne trompe pas le public, Jean-Paul.
Non,
et
non,
là,
c'est vrai.
C'est des vraies oies qu'on retrouve dans votre film.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Est-ce qu'on passe facilement d'un one-man show à l'affiche d'une comédie musicale où on partage la scène avec une vingtaine de comédiens ? En même temps, pour ceux qui ont vu le spectacle, c'est encore un peu un one-man show, car comme Sam est mort, vous êtes censé pas le voir, donc vous parlez souvent avec vous-même, finalement.
Ouais, c'est ça. Un peu, c'est une espèce de schizophrénie. Voilà, parce qu'il me parle, il me drive, mais je dois pas le voir. C'est super difficile. En tout cas, en répétition, on a bien rigolé. Et on avait fini par installer un truc et pour rejoindre la chronique de Mr. Axel, c'était qu'à chaque fois qu'on le regardait, on devait lui offrir une bière. Ah. Ouais. Elle, tu m'en dois deux. Il faut dire. Mais non, mais je t'ai pas regardé. Ah si, tu m'as regardé. Donc c'était assez marrant.
Claudia, on connaît votre don pour l'impro dans vos spectacles. Là, j'imagine qu'il n'y a pas de place pour l'impro dans une comédie musicale comme ça. Tout est réglé au millimètre.
Le livret était. Ouais. Mais j'ai quand même réussi.
Vous réussissez
à moi.
C'est vrai.
Oui, parce que je pense que on est venu me chercher un petit peu pour ça aussi, parce que c'est de pouvoir rebondir, pouvoir. Et puis moi, je vais vite m'ennuyer hein, s'il faut dire tout le temps les mêmes choses. Donc. Du coup, je m'amuse avec certaines situations, les portes qu'il faut ouvrir, je les ferme. Enfin, voilà, j'essaie de déstabiliser un peu mon partenaire. Et puis des fois, je fais rire même. Donc, parce que je pense que la partition de celui qui joue Sam, donc ouais, je vais y arriver, Grégory Benchenafi, elle est énorme parce qu'il est seul, personne ne le calcule pendant 2 heures. Et donc, du coup, j'essaie de trouver un petit peu des petites choses pour le faire sourire un peu, pour qu'il puisse répondre autrement. Enfin, voilà, je m'amuse.
Sans jamais le regarder.
Et sans jamais, vraiment, quand je dis déstabiliser, ça reste vraiment toujours à mon partenaire. Mais c'est vraiment pour mettre un peu de piquant, pour qu'on puisse être dans l'action à l'état pur, j'ai envie de dire, face à ce public-là, pour ne pas qu'ils se disent « Ah, mais quand je suis venue, c'était pratiquement la même chose » ou « Non ».
À chaque fois, c'est différent.
À chaque fois, ça change. Mais ne serait-ce qu'avec moi, hein, la voix.
Claudia, vous êtes donc à l'affiche de Ghost, le musical, au Théâtre Mogador. Et dans quelques jours, le 16 octobre, vous serez à l'affiche d'un film, L'Angle Mort, aux côtés notamment d'Isabelle Carré. Il y a aussi, dans quelques temps, un téléfilm, Intime Conviction, pour France 2. Est-ce qu'avec tout ça, vous avez le temps ou l'envie même de penser à un prochain one-man show?
Ah oui, pour l'instant, comme je suis assez gourmande, quand je mange, j'ai toujours pour habitude de dire qu'il faut finir son assiette. Donc pour l'instant, je me consacre vraiment à cette comédie musicale, c'est tout nouveau pour moi. Et oui, au fond de ma tête, oui, bien sûr, il y a un one. Ce serait super si je pouvais revenir, là je dis ça pour ma production,
oui.
Revenir en janvier 2022.
Ah, 2022.
Cool. Ah, c'est loin, ça.
Faut déjà y penser, en fait.
Ah,
c'est
bah
ça.
Oui.
Après Crazy, Lucky, vous avez déjà un titre en I.
Ouais, sexy.
Sexy, tout simplement.
Maybe, je sais pas. Ouais.
Un mot du film Intime Conviction qui arrive bientôt. C'est comme une sorte de Columbo, vous dites. C'est-à-dire, vous roulez dans une vieille voiture avec un chien tellement mou qu'on pourrait penser qu'il est décédé.
Non, c'est parce qu'elle elle tranche dans le vif, elle est sûre de ce qu'elle raconte. C'est Columbo, c'est comme elle est comme un petit boxeur, quoi. Elle lâche pas.
Oula, vous faites bien, ça. Oui. Ça fait peur.
Voilà, vous avez vu. Donc oui, c'est elle tranche dans le vif, voilà. Et puis elle a une jolie rondeur comme ça, mais elle vient pour gifler.
Ça ouais. Me fait penser à Eva, c'est bizarre. Vous auriez pu tenter le rôle aussi. Vous devriez y passer plus de casting, Eva.
J'imagine le réalisateur, il y en a Stéphane Café, il va me dire « Elle a bien vendu le film, elle !»
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Eva, l'heure est venue de vous confronter à notre invité. En hommage à Ghost, nous allons faire un quiz musical de rapidité.
Elle va gagner, hein, peut-être. Hein
non,
attention,
non, je crois
déjà,
pas.
On va tous se concentrer pour comprendre les règles.
Ah.
Qui dit Ghost dit fantôme. Qui dit fantôme dit Ghostbusters. Ça tombe bien, Claudia, vous avez fait le doublage dans le film SOS Fantôme en 2016.
C'est ça.
Je vais vous faire écouter la chanson du générique du film, mais attention, elle sera mélangée à une autre chanson. C'est cette chanson-là que vous devez être la première à identifier. Chaque
d'accord.
Bonne réponse vaut un point. Premier extrait, je donnerai donc un point à celle qui trouvera la chanson, pas le chanteur, mais la chanson. C'est parti.
La chanson. Billie Jean?
Non. Who's Ben? Bonne réponse, effectivement, écoute.
Alors là, heureusement que j'ai gagné parce que là, tout le monde derrière moi. Quoi? Non, Ben? Non, surtout ma soeur, là, j'ai décapité en 2 minutes.
C'est bon, l'honneur est sauf, Claudia.
Je peux
le reste du quiz.
Voilà.
Deuxième extrait, je donnerai un point à celle qui trouvera le groupe qui chante avec Ghostbusters.
C'est
la plus rapide. Quelle oreille musicale. On comprend qu'elle a été prise sur la comédie musicale. Elle a passé le test AC/DC, effectivement. On écoute.
Ouais. Ah, c'est le style de musique que j'écoutais.
Vraiment, c'est vrai. Ah oui. Ça. Vous étiez plus AC/DC que Ghost, quoi.
Ouais.
Une chaîne mélodie. Troisième extrait, je donnerai un point à celle qui trouvera soit le titre, soit le chanteur qui est mélangé ici avec Ghostbusters. Moi, j'ai trouvé.
Ouais.
c'est horrible. C'est horrible.
C'est récent.
Mais oui, oui.
Ouais.
Oh, très bien. C'est raté. Vous n'avez pas répondu dans le temps. Parti, on écoute. Uptown Funk, Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk.
Je suis nulle,
hein. Bah franchement, je suis assez déçu pour quelqu'un qui regarde les planètes qu'Alain n'a pas trouvé ça.
C'est vrai, Alain. Réveillez-vous, Alain.
Franchement.
Quatrième extrait. Je donnerai un point à celle qui trouvera soit le titre, soit le chanteur qui est mélangé avec Ghostbusters.
C'est oui, ouais.
Ce n'est pas du tout de réponse, c'est le coréen. Il y a plusieurs coréens.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un, non.
Non, c'est pas lui.
C'est pas Kim Jong. C'est l'autre coréen connu.
C'est
effectivement Gangnam Style qui est.
Gangnam Style.
On l'accorde.
Ouais. C'est parce que lui non plus il connaît pas mon nom aussi. Hein. Donc à un moment donné, je me dis, on a égalité. Voilà.
Mathieu, dans la bouche de Claudia Tagbo, le Gangnam Style, ça devient Miam Miam Style.
Moi, je suis gourmande. Miam Miam Style.
Qui remporte ce quiz? Je pense qu'évidemment, c'est Claudia Tagbo qui remporte ce quiz Ghostbusters, je dirais.
Faut même pas poser la question, non. Parce que je crois qu'elle a même pas trouvé le sens du casque. Elle était pas là.
Claudia, elle a bien saisi l'esprit de notre émission.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
L'heure est venue de mettre le cap au sud sur l'Amérique latine. Oui, oui, mais plus précisément, l'Amazonie. Oui, c'est la limite de notre bibliothèque sonore à Europe 1. L'Amazonie, où nous entraîne notre spécialiste environnement, Anne Le Gall. Anne qui adore travailler avec moi, pour une raison simple, certainement mon professionnalisme.
Ça consomme énormément d'énergie, effectivement, en plus.
Pardon, j'ai une relance, c'est ça, Anne?
Absolument. Attendez,
je ne sais pas où elle est, donc je vais chercher, mais...
C'est bien joli tout ça.
C'est là. Mais c'est bien joli tout ça. Bon, alors Anne, aujourd'hui, j'ai votre feuille, je la prends là, on est bien, j'ai votre feuille. Vous pouvez vous lancer sans crainte. Vous avez choisi de nous parler des rivières volantes.
Voilà, je sais que vous pensez que je suis perchée. Jean-Louis Etienne sait que je ne suis pas si perchée que ça. Les rivières volantes, ça va donner lieu à une exposition à Lausanne, en Suisse.
À Lausanne.
Vous, Mathieu, à partir de ce week-end. Exposition à l'initiative d'un explorateur suisse, Gérard Moss. Gérard Moss vit au Brésil, il est pilote d'avion. Je l'ai eu au téléphone et il m'a raconté qu'en 2006, quand il survolait la forêt amazonienne, il s'est retrouvé dans des masses de nuages particulièrement humides. Ça l'a intrigué et après enquête auprès de différents scientifiques, il a réalisé que dans le ciel au-dessus de l'Amazonie, il circule plus d'eau que dans le fleuve Amazone. Donc on parle bien de l'Amazone, plus grand fleuve du monde. Fleuve qui, je vous le rappelle, débite 200 000 mètres cubes à l'estuaire. Fleuve qui débite 17 milliards de tonnes d'eau.
C'est bien de nous le rappeler, parce que personnellement, j'aurais dit 198 000 plutôt mètres cubes, enfin de mémoire.
Et bien voilà, en fait, ça fait toujours moins que les 20 milliards de tonnes d'eau qui circulent dans le ciel au-dessus de l'Amazonie. C'est cela qu'on appelle donc les rivières volantes.
Mais enfin, Anne, elle vient d'où cette eau?
Elle vient de la transpiration des arbres.
On aurait un peu Jamie dans ses passations.
C'est
mais
bien
dis donc,
joué.
Jamie, elle vient d'où cette eau?
Elle vient d'où? Eh bien, elle vient de la transpiration des arbres.
La transpiration
et
des
oui,
arbres.
Et oui, un seul arbre en Amazonie, Jean-Louis Etienne le dit d'ailleurs dans son livre, un seul arbre peut transpirer entre 300 et 1000 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 2 à 6 baignoires d'eau. Hein, pour vous donner une petite idée de cette transpiration.
Je vais moins culpabiliser quand je vais prendre mon bain. Alors, si les arbres prennent aussi les bains, c'est bon.
Ça s'appelle l'évapotranspiration. Vous l'expliquez très bien, Jean-Louis Etienne. Ça permet d'un côté, d'une part, de faire monter la sève tout en haut des cimes.
Ouais. Oui, l'arbre, il a besoin d'eau. Et donc, il la prend dans le sol par les racines. Il y a ce qu'on appelle l'osmose. Ça monte. Et puis après, il y a la capillarité dans le tronc. Et après, c'est la transpiration. On parle de l'Amazonie, mais des rivières flottantes, mais dans une forêt de hêtres de chez nous en France, une forêt de hêtres transpire 25 tonnes d'eau par jour.
Donc il y a les rivières volantes en France aussi?
Ben oui, mais exactement. Ce qui fait que c'est des rivières violentes, volantes.
Des rivières violentes.
Parce que c'est l'immensité qui donne ça, si vous voulez. Donc tout ça pour souligner le rôle essentiel que jouent les arbres dans l'hygrométrie, dans la régulation de l'eau de l'atmosphère.
Et au Brésil, ça a un rôle particulier puisque ça va permettre d'irriguer les cultures, puisqu'après, évidemment, ces rivières se déplacent. Donc il y a 40% de l'humidité de Sao Paulo qui est issue de ces rivières volantes. Ça permet de cultiver une grande partie des terres au Brésil et dans les pays alentours. Et dans le Mato Grosso, donc à 2000 2000 km de l'Amazonie, si on a 3 récoltes par an, c'est dû à ces rivières volantes. Donc on ne découvre pas le phénomène puisque le terme de rivière volante date des années 70. C'est un terme qui a été inventé par des Américains. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'avec la déforestation, ces rivières volantes sont menacées. La forêt amazonienne a perdu depuis janvier, donc depuis 9 mois, 500 millions d'arbres. Alors le calcul est simple, 500 millions par, mettons, 400 litres de transpiration d'arbres en moyenne, eh ben, ça fait 20 milliards de litres d'eau qui ne partent plus dans le ciel. C'est l'équivalent en piscine olympique, je ne sais plus, je l'avais noté, je crois que c'est 7000 piscines olympiques qui, donc, chaque jour, n'irriguent plus les terres au Brésil et aux alentours de l'Amazonie. Donc, d'où l'intérêt de cette exposition sous la houlette de la Fondation Aquatis, exposition à Lausanne qui va durer 8 mois sur les rivières volantes et qui servira aussi à la reforestation. Ça devrait financer la plantation de 3 millions d'arbres.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Un nom qui vous évoque forcément beaucoup de choses. On vous a tendu un micro dans la rue. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté de manière trop flatteuse pour l'invité, mais un micro trop trash. C'est comme le micro-trottoir, mais on n'a pas censuré.
Jean-Louis Etienne.
Monsieur Pondor, monsieur, non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Mais surtout, il s'est occupé très tôt des bouleversements de notre planète et des bouleversements climatiques à partir de zones où personne n'allait.
Médecin de formation et bon, sensible au devenir de notre planète qui ne va pas très bien actuellement et notamment en ce qui concerne le Grand Nord. Hein.
Bah, le pôle Nord, c'est là où il fait froid.
Jean-Louis Etienne, les chiens, non, c'est pas ça. Les chiens de traîneau, c'est pas lui.
Ouais, vous vaniez.
J'ai mis Étienne dans le vanier, quoi.
Il y a dans ce micro-trottoir, il y a une phrase qui fait réfléchir. Le pôle Nord, c'est là où il fait froid. Au rythme où vont les choses, Jean-Louis Étienne, on devra bientôt dire le pôle Nord, c'est là où il faisait froid.
Effectivement, ça se réchauffe, mais la banquise, le pôle Nord est au milieu d'un océan. Un océan gelé, recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise. Et on voit, c'est vrai, à la fin de l'été, tous les ans, que la banquise régresse. Elle reste en surface, elle reste en épaisseur. Ce qui disparaît, c'est la glace pluriannuelle, hein, ce qu'on appelait les neiges éternelles, qui sont en train de disparaître. Et c'est de la glace de l'année qui vient, et donc elle est beaucoup moins épaisse. Et c'est vrai qu'elle va avoir de plus en plus tendance à disparaître à la fin de l'été. Donc la banquise disparaît. Mais à la fin de l'été, elle reviendra toujours en hiver, parce que c'est la nuit polaire, il fait froid. Mais elle sera moins épaisse, plus fragile.
Eva Rock.
Est-ce que ce réchauffement climatique met en péril vos expéditions? C'est-à-dire que les expéditions que vous faisiez il y a 30 ans, vous ne pourriez plus les faire aujourd'hui?
Alors, quand j'ai traversé l'Antarctique, on était 6 avec des traîneaux à chiens, donc, on est parti du bout de la péninsule antarctique, celle qui est en face le Cap Horn, hein, en géographie, et bien les 600 premiers kilomètres de plateforme de glace sur lesquels on était ont disparu.
Une part en 2000
et une part en 2002, les 600 premiers kilomètres ont disparu. Donc c'est vrai qu'on ne pourrait plus refaire l'intégralité de la traversée qu'on a faite.
Qu'est-ce que vous dites aux climato-sceptiques? Il y en a encore, peut-être même parmi nos auditeurs, vous qui connaissez bien les pôles, qui sont donc le baromètre, quelque part, du réchauffement climatique de la planète. Est-ce que c'est l'argument ultime qui prouve que...
Le réchauffement climatique, on en a fait un sujet de conversation populaire. On s'est planté. Il fait froid au mois de juin. Deux personnes vont acheter la baguette de pain. Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? La santé et le temps qu'il fait, les deux mamelles de la conversation. Il fait froid au mois de juin, l'autre il va dire « T'y crois, ton réchauffement climatique, t'as vu, un temps géant, on se caille ». Ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. 1 degré en un siècle. C'est quelque chose qui ne se perçoit pas. C'est ça, c'est une mesure scientifique, il n'y a pas de conversation là-dessus. Elle a pris 1 degré exactement comme nous, on est à 37 quand ça va bien.
Et à 38, on doit s'inquiéter.
À 38, on doit s'inquiéter, c'est pareil.
Eva,
quel regard vous portez sur la jeune Greta Thunberg qu'on entend beaucoup et sur les collapsologues en général qui ont une vision très négative de l'écologie et de ce qui peut nous arriver?
Alors Greta a provoqué un véritable mouvement planétaire, si vous voulez. Elle a enfoncé le clou, effectivement, de la situation climatique, parce que c'est une maladie chronique, vous voyez, le réchauffement climatique. C'est une maladie chronique. Et si on ne fait rien, les maladies chroniques, à un moment donné, ça se complique sérieusement. On est là aujourd'hui, on vient de l'évoquer, la Terre, elle a 38, elle a pris 1 degré. 39, c'est 1 degré de plus. La quantité d'énergie dans notre corps pour passer de 38 à 39, c'est énorme. Et la planète, c'est pareil. Donc, Greta alerte le plus. Le problème est compliqué. La réponse, elle est multifactorielle et elle est liée à l'énergie. Donc, quand on voit la quantité d'énergie que nous consommons tous à l'échelle de la planète, eh bien, il faut enfoncer, effectivement, il faut faire de la pédagogie en permanence, mais c'est une réalité. Et il est urgent d'agir, de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
La rencontre aujourd'hui des deux plus grands aventuriers français, Jean-Louis Etienne, premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire, et Bibi, premier homme à être entré au péril de sa vie dans la salle des chauves-souris du zoo de Beauval. Je pensais que les chauves-souris étaient derrière une vitre. Ou je suis entré, j'étais tout noir et j'ai senti une aile comme ça contre moi. Jean-Louis Etienne, ça vous fait quoi de me rencontrer ? Entre aventuriers, je sens qu'on se comprend.
Non mais vous avez une énergie colossale.
Oui mais je n'ai que ça hélas, je n'ai pas la partie courage de l'aventurier. Vous aviez écrit Jean-Louis Etienne.
Moi, j'ai une question, oui. Est-ce que vous arrivez à faire des silences ?
Non, je n'arrive pas.
Vous êtes incroyable. Non,
je crois que j'ai une peur fondamentale, viscérale, du silence.
Mais c'est pas inintéressant quand même.
Vous aviez écrit sur le mur de votre chambre d'étudiant, Jean-Louis Etienne, on n'empêche pas une mouette
de prendre le large, mouettecier.
Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui nous écoutent et qui ont peut-être aussi des ambitions différentes de celles de leur prof ou de leurs parents ?
Il y a une chose qui m'a surpris et qui m'inquiète par moments, c'est quand je vois les jeunes qui font des manifs pour la retraite. Ça me choque. Enfin, ça me choque. C'est pas que ça me choque, mais je suis triste plutôt. Parce que mettre les voiles de tempête aux premières brises de la vie, si vous voulez, c'est un peu inadapté, voilà. Et donc la vie, quand même, on se la construit. On a un capital extraordinaire, il faut se faire des outils dans la vie. Je veux dire, on a une façon très morne de la regarder aujourd'hui. Je trouve que c'est un champ personnel de développement qui est énorme. Et la liberté, si vous voulez, on ne la gagne pas sur les autres. On la gagne sur soi, sur ce qu'on est capable de prendre comme risque, de s'imposer, de changement dans l'existence pour la construire.
Vous publiez Aux arbres citoyens, mais votre précédent livre, si je ne m'abuse, était sur l'autonomie.
Oui.
Et ça, c'est très intéressant parce Oser l'autonomie, ça rejoint ce que vous dites là. Vous trouvez qu'on est un peu trop assisté aujourd'hui, finalement. Il faut apprendre à se débrouiller par soi-même.
On se laisse assister. C'est pas qu'on est trop, on se laisse assister. C'est tellement facile, si vous voulez. Et je pense qu'on a un potentiel, on a des potentiels. J'ai écrit dans un livre précédent, j'avais écrit « On ne repousse pas les limites, on les découvre ». On est fait de choses que l'on ignore de soi. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre en œuvre et éventuellement d'abandonner les choses que l'on a acquises pour de nouvelles expériences. C'est comme ça qu'on se construit et je pense qu'on va en avoir besoin puisque effectivement les métiers changent rapidement, les compétences changent, il faut se faire des outils. Et je dis aux jeunes, l'anglais, apprenez l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn. Je partais avec un retard.
Vous devez avoir un petit accent.
Ah, mais non, mais c'était cut is an animal, repeat after me. Et forme interrogative. Is a cut an animal? Eh bien, yes. Vous voyez, c'était ça le cours d'anglais. Voilà. Donc, c'est important parce qu'il faut. C'est un outil. L'anglais, c'est pas qu'une langue, c'est un outil de travail. On multiplie par 50 ses chances de trouver du boulot.
Et moi, j'ai une question pour Jean-Louis Etienne, et c'est une question qui sera en lice pour le prix Pulitzer. Alors, musique. Jean-Louis, quitte à partir à l'aventure, pourquoi partir là où il fait froid quand on peut partir là où il fait chaud ?
Vous attendez ma réponse ?
Oui.
Je ne sais pas.
Pourquoi vous avez été fasciné par le froid
J'ai trouvé un papier dans mes vieilles archives d'un truc que j'avais écrit, j'avais 14 ans. J'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver.
Voilà, déjà.
Donc je ne sais pas, j'ai un métabolisme basal un peu élevé. C'est-à-dire que j'ai une température du corps un petit peu élevée, ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est cet attrait ?
C'est ça.
Mais c'est surtout le désert qui m'intéresse.
Quand je me balade en forêt avec mon fils le week-end et qu'il me demande « Papa, c'est quoi cet arbre ?» ou bien « Papa, c'est quoi cette plante ?» Mais dans 99% des cas, je suis infoutu de lui répondre. Alors qu'on le sait, dans les sociétés dites primitives, tout adulte connaît les noms de milliers de plantes. Moi, je suis obligé de regarder une appli qui s'appelle un peu Shazam des plantes pour lui dire ce que
Plante Net.
Ben, c'est un peu terrible, ça.
C'est pas la peine de connaître tout pour l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, il y a deux façons de se promener dans la forêt. Soit vous y allez en connaisseur, effectivement. Moi, ce que j'aime bien quand je me promène avec des naturalistes, c'est quand ils commencent à me raconter l'histoire. Comment cette plante-là, mais cet insecte, vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette dynamique qui est intéressante, beaucoup plus qu'une culture livresque du nom de chacune des plantes.
C'est aussi une connaissance, du coup, encore plus complexe de connaître les...
Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que la biodiversité, ce n'est pas la somme d'une multitude d'espèces, c'est comment elles cohabitent entre elles. Et quand vous entrez dans l'histoire de la nature, c'est là que vous vous rendez compte qu'on a intérêt à garder tout le monde. C'est une grande mutuelle, la nature. J'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence pour le Crédit Agricole, et donc il y avait le directeur qui était là, j'ai dit, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde ? Il me regarde, mais d'un air de dire, c'est la nôtre ? Non, c'est la nature. Dans la nature, toutes les espèces ont la vie en commun et cotisent de leur mode de vie à la fin de leur corps, si vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, on se gave un peu quand même.
Hein. Ça, c'est clair.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Si nous sommes réunis aujourd'hui devant le Seigneur, c'est pour rendre un ultime hommage. Un ultime hommage à celle qui n'est plus et qui nous manquera, la belle ambiance qui régnait dans la rédaction d'Europe 1. Fini les sourires à la photocopieuse et les blagues potaches à la cantine.
Non, juste un doigt.
Même si la vanne ne marchait pas avec le jus de pomme, je vous l'ai toujours dit, Eva. Non, désormais, c'est la guerre de tous contre tous, plus aucune solidarité. Pour être élu chroniqueur du jour, nos journalistes passent leur temps à tirer la couverture à eux, quitte à dire absolument n'importe quoi.
On me demande souvent si je suis pas surfeur.
Oui, absolument tout. Même Jérôme Lacroix dit n'importe quoi. Jérôme, vous nous parlez sport aujourd'hui, c'est votre spécialité, et vous nous révélez quelque chose d'étonnant. On court toujours dans le même sens.
Le sujet dont je vous parle cet après-midi...
Ça fait déjà beaucoup rire Ève Roger qui ne croit pas, mais alors du tout, qui ne mise pas un copec sur ce sujet.
Ce sujet dont je vous parle est né sur une ligne de crête. J'ai ressenti un vertige, celui comparable à la réception de cette question. Papa, comment on fait les bébés ? Retour, semaine dernière, championnat du monde d'athlétisme au Qatar, donc, et ma participation active depuis mon canapé devant ma télé, avec à mes côtés mon jeune fils de 4 ans et demi. Alors, nous regardons la télé, un groupe d'athlètes commence à suer sur la piste, à faire des tours de piste, plusieurs tours. Et là, la question de mon garçon. Mais papa, pourquoi il court à l'envers ? À l'envers ? Bah oui, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais pourquoi tu te poses cette question et pourquoi tu me demandes à moi ? Je puise donc dans mon cerveau, bonjour Google, recherche. Pourquoi les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Et là, une incroyable fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas du tout dû au hasard et j'ai appris des centaines de choses. 1896, premiers Jeux olympiques de l'ère moderne, les athlètes courent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est le choix des instances à l'époque, un choix arbitraire. Mais très vite, les athlètes râlent. On ne sait pas pourquoi, mais c'est
ça
pas naturel.
Pas. Alors, mais c'est vrai que je ne pourrais pas courir sur un stade dans l'autre sens.
Vous allez entendre. Alors, dès 1913, on inverse, on partira dans l'autre sens, si important que c'est inscrit désormais dans les statuts de la Fédération internationale d'athlétisme.
Alors, je le ressens là quand je le visualise, mais pourquoi ce n'est pas naturel ?
Les athlètes ne se sentaient pas à l'aise en courant de la gauche vers la droite.
Pas sauf les gauchers, peut-être.
Alors, non. Explication, première théorie. Quand on court dans le sens des aiguilles d'une montre, donc il faut imaginer une piste d'athlétisme, oui. On a tous vu des courses, il faut imaginer les athlètes courir dans l'autre sens que celui qu'on voit d'habitude dans le sens des aiguilles d'une montre. La force centrifuge exercée alors fait circuler le sang de la droite vers la gauche dans le cœur. Mais dans le cœur, le sang transite naturellement dans le sens opposé. Courir de la droite vers la gauche est donc moins fatigant pour l'organisme et ça permet d'aller plus vite. C'est la conclusion des physiologistes qui se sont penchés sur cette question dès le 19e siècle.
Mais ça a été prouvé par des études récentes, votre truc ?
Un scientifique japonais a fait courir 4 athlètes sur 400 mètres, donc un tour de piste, 400 mètres, un coup dans le sens des aiguilles, un coup dans l'autre. Et conclusion, 2 secondes de mieux à l'arrivée quand il courait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une autre hypothèse va chercher, là pas dans notre cœur, mais dans notre cerveau. L'hémisphère droit, c'est celui qui est impliqué dans l'aspect cartographie de nos perceptions. Or, cet hémisphère droit, il a en charge la partie gauche de notre organisme. Voilà pourquoi on est plus à l'aise quand on court vers notre côté gauche. Ça améliore également la vision. On a une meilleure vision quand on court dans ce sens-là. Voilà pourquoi, selon la science, quand on doit prendre, par exemple, spontanément la fuite dans une direction aléatoire, eh ben 80% du temps, on part à gauche. C'est aussi pour ces raisons que les carrousels, par exemple, tournent aussi de la droite vers la gauche.
Ah oui, alors, c'est vrai, les manèges.
Oui, les manèges, oui.
Que vous prenez souvent, Eva.
Mais oui.
Alors, je termine en soulignant qu'il n'y a pas qu'en athlétisme qu'on court dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça vaut aussi pour le cyclisme sur piste ou dans le baseball également. Et alors, on peut y voir aussi, en tout cas moi, un symbole, courir à l'envers, contre les aiguilles, contre le temps.
Ça, c'est votre côté poète.
Pour battre le chronomètre.
Le Rimbaud du journalisme. Abdelmalik, vous avez appris quelque chose là.
Ah ouais, carrément, passionnant.
Eh bien, écoutez, Jérôme, franchement.
Non, mais ce qui est étonnant, c'est que même
ça
dans les parcs...
mal sur le papier.
Même dans les parcs,
qu'est-ce qui se passe dans les parcs ?
Eh bien, on court dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Mmh. Oui. Instinctivement, c'est naturel.
C'est vraiment un truc naturel. Et oui, quand vous avez quelqu'un en face qui arrive parce qu'il n'a pas couru dans le bon sens, vous avez envie de le taper.
On a compris, Jérôme vient d'expliquer.
C'était la chronique de Jérôme.
C'était le petit plus inutile des baroques.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Bonjour Henri de Laguérie.
Bonjour Mathieu.
Nous partons avec vous en Espagne. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 là-bas. Alors, chez vous, un hôtel exclusivement réservé aux femmes vient d'ouvrir ses portes. C'est une première en Espagne.
Eh oui Mathieu, c'est un hôtel 4 étoiles, ce qu'on appelle un boutique hôtel. C'est sur l'île de Majorque, au Baléares, sur la côte est, au bord de la Méditerranée. Ça, c'est pour la carte postale. Alors Mathieu, vous pouvez toujours essayer d'appeler. Vous ne pourrez pas réserver de chambre, car jusqu'à
même
preuve
si
du
je
contraire...
Même si je prends une petite voix
j'ai peur que ça ne passe pas. Ah. Vous êtes un homme et à l'hôtel Som Dona, ce qui veut dire nous sommes des femmes en catalan, eh bien les hommes ne sont pas les bienvenus. Alors, j'ai quand même passé un coup de fil pour leur demander quelques renseignements. Je leur ai expliqué qu'au hasard, Eva Rock voulait y passer un week-end.
Mais
fatiguée
oui.
par l'ambiance peut-être un peu trop masculine de cette émission. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de garçons aujourd'hui.
C'est vrai.
Eh bien, à la réception, on m'a dit qu'elles étaient les bienvenues. Il faut juste que vous ayez plus de 14 ans.
Je crois confirme.
Que c'est le cas. On m'a parlé donc d'un havre de paix pour toutes les femmes. Voilà, vous pouvez venir avec votre fille, votre mère, en couple ou avec un groupe de copines. La décoration des 39 chambres a été pensée par et pour les femmes, avec des espaces de rangement pour les bijoux, du nécessaire pour se démaquiller, une touche de rose sur les murs, mais attention, on ne tombe pas dans le stéréotype sur le directeur de l'hôtel. À part ça, il y a une belle piscine, des possibilités de massage et une carte de restaurant qualifiée de healthy. Donc voilà, Claudia, Eva, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, profitez-en. Au Baléares, l'été n'est pas terminé. Et pour les tarifs, eh bien, on est entre 70 et 100 euros la nuit.
On imagine
c'est dans vos moyens. Oui, oui, oui.
On imagine que le personnel, Henri, est exclusivement féminin.
Alors oui et non, face aux clientes, face à vous, il n'y aura que des femmes, mais des hommes travaillent aussi dans l'hôtel. On ne les voit pas, hein. Ils sont en back-office. Vous savez pourquoi les hommes? Car il faut respecter la loi en Espagne sur les discriminations à l'embauche.
Et Henri, le mouvement féministe est puissant en Espagne, on le sait. Cet hôtel veut faire passer un message politique?
Alors non, pas du tout. La directrice de la communication m'a expliqué qu'ils sont une entreprise privée. Ils ne revendiquent rien, sûrement pas l'étiquette d'hôtel féministe. Ils ont ouvert l'établissement car ils sont persuadés qu'il y a une demande pour cela, un nouveau marché. Bref, ils veulent gagner de l'argent. Un hôtel du même genre a ouvert d'ailleurs à Berlin, à Paris. Mais là, attention, ce sera sans doute un autre budget, le Bristol à 9 chambres réservées aux femmes. Et puis Eva, si vous préférez passer vos vacances au frais, une île privée en Finlande accueille également une clientèle exclusivement féminine depuis l'été dernier.
Ah, c'est bien ça.
Mais, oui, mais moi je
vous
préfère
mix, bien
mais
très, très
bon,
loin.
Oui,
hein, vous voulez sur une île privée en Finlande.
D'accord,
c'est très bonne idée ça, Henri Laguérie.
Mais pas que dans un hôtel typique que pour femmes. Oui, ce que
on n'a pas compris votre phrase,
d'accord,
mais on a compris l'idée. Merci beaucoup Henri Laguérie.
Merci,
on rappelle
Henri.
Que vous êtes notre correspondant en Espagne.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Jean-Paul Rouve qui a proposé de nous prendre tous en photo, toute l'équipe.
Non, non, je veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ.
Mais je vous en prie, Jean-Paul, Eva n'est pas vieille. Enfin, selon le magazine Pleine Vie, elle est dans le bel âge. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ensemble, Jean-Paul, on parle de ce film.
Tous les jours, c'est comme ça.
C'est vrai. Tous les jours, il faudrait que le public soit là pour vous soutenir.
Oui,
Eva.
C'est une requête que vous avez. Tout à fait.
On parlera à la direction. Ouais. Vous incarnez Jean-Paul Christian, un scientifique un peu rêveur, obsédé par la préservation d'une espèce d'oie en voie d'extinction. Père séparé, un peu dépassé, il accueille son fils, un ado, qui au départ est bien plus passionné par les jeux vidéo que par la nature. Mais au fil de l'histoire, une complicité incroyable va se nouer entre le père et son fils. Au-delà des oies, est-ce que c'est cette relation qui vous a plu dans le scénario?
Entre autres, oui. C'est ce mélange qu'arrive toujours à faire d'ailleurs Nicolas Vanier dans ses films, le dernier L'école buissonnière notamment. Il arrive à ça, il arrive à parler de sujets qu'il touche, d'écologie, de tout, mais sans être didactique, sans être moralisateur. Il met ça toujours dans une histoire humaine. Et moi, qui ai un fils, forcément, ça me parle, cette relation-là. C'est compliqué, quelquefois, les enfants, d'être en phase avec eux.
Parce que nous, on change,
c'est normal, ils n'ont plus les mêmes envies que nous. On aimerait tant qu'ils aiment ce qu'on a aimé nous, mais la vie fait que non, donc il faut aussi savoir nous aller vers eux.
Heureusement qu'il reste Pokémon et Dragon Ball Z en ce qui me concerne, parce que comme ça on aime les mêmes choses avec mon fils. Eva Rock.
Est-ce qu'avec votre fils, Jean-Paul Roux, vous parlez d'écologie justement? Est-ce qu'il vous pousse un peu à être écolo?
Voilà, c'est lui, les mômes, ça c'est vrai. C'est vrai. Nous, on n'avait pas ça, gamin. L'écologie, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, oui, les enfants sont très concernés. Ils en parlent entre eux à l'école. Moi, je vois à la maison, c'est lui qui dit des choses sur le tri, surtout. Il est très au courant de tout. D'ailleurs, maintenant, je lui achète plus de fringues parce que, je veux dire, c'est mauvais pour l'écologie. Donc, il va nu à l'école. Comme c'est loin, mais il y va à pied.
Pieds nus, parce qu'à
un moment, c'est important. Et là, je lui ai acheté, il a appris à monter à cheval. Et parce que ce qu'il faut pas, c'est mauvais la pollution, les voitures, le bus, le métro, tout ça. Non, stop. Donc, il va à cheval à l'école. Et là, il apprend le vieux français, ça se passe très bien.
Le vieux François.
Et est-ce qu'il va manifester à cheval aussi avec les autres jeunes ados qui manifestent en ce moment?
Il est trop petit encore, il est trop petit. Ah, il a 12 ans, donc c'est, ouais, encore, c'est encore un peu jeune. Mais j'imagine dans 2-3 ans, il y sera, c'est sûr. Oui.
Les, ouais, conditions de tournage étaient complexes. Vous êtes allé en Norvège. Quand on suit Nicolas Vanier, lui, il est habitué à des conditions, ouais, complexes. Il a fallu s'adapter. Vous n'avez, ouais, pas demandé le spa, ouais, à l'hôtel. Là, vous avez suivi.
Exactement, non, mais il faut s'adapter, c'est vrai. Mais vous le savez, quand vous commencez. Ben, ouais. Vous savez qu'en fait, puisque ben, on l'a expliqué, les oies, on a suivi en fait, le rythme des oies. Les oies que vous voyez dans le film, il y a la naissance des oies, ensuite elles grandissent, ensuite elles commencent à marcher et ensuite elles commencent à voler. Donc on a suivi ça pour tourner, évidemment. Et donc on était adapté à elles. Et quand on est parti en Norvège, c'est au moment où elle voulait migrer. Enfin, tout était réaliste. Et en effet, en Norvège, on a tourné en Laponie, au-dessus du cercle polaire, et dans un lieu incroyable, vraiment presque lunaire. Où là, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Le moindre premier centre de la Croix-Rouge était à une heure de voiture et on dormait dans des tentes, tout. Et moi, je vous avoue que c'est pas facile, hein, les conditions. Je suis pas l'habitude de ça. Et Nicolas, lui, il est content.
Il était bien.
Nicolas, de toute façon, lui, il prend un brin d'herbe et il fait une fête pour 300 personnes. Tellement il est en accord avec la nature.
Alain,
avez-vous vu des aurores polaires?
C'était pas la saison.
C'était pas la saison.
Malheureusement, ouais, il me fait peur.
Il nous fait tous peur, hein, Jean-Paul. Mais rassurez-vous, il va rentrer.
Il fait
justement
un peu peur dans sa façon de, ouais, parler.
Mais dans beaucoup de choses.
Il ressemble, je trouve, un petit peu une sorte de pédophile à la sortie de l'année. <l'air. rire>
Alain, je n'irai pas jusque-là, mais rassurez-vous, Jean-Paul, je vais le ramener à Cochin tout à l'heure. Je dois d'ailleurs remplir sa fiche de comportement avant de le ramener à Cochin. Est-il vrai, Alain, que vous auriez uriné dans les bégonias du 3e près des ressources humaines?
Non, c'était pour me soulager un peu.
Mais il y a des toilettes, Alain, bref.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Penchons-nous sur l'incroyable parcours de notre invité Jean-Paul Roux. Oui, quand on se penche sur un parcours incroyable, on fout la musique d'Amélie Poulain. Toujours, c'est comme ça. C'est d'ailleurs un des rares films Amélie Poulain dans lequel vous n'avez pas joué. Vous en voyez un autre, Eva?
Avalanche humide.
Oui, Avalanche humide aussi. Oh, vous aviez fait l'impasse, c'est vrai. Mais sinon, Les Tuches, Monsieur Batignolles, Podium, Nos Jours Heureux, Les Souvenirs que vous avez réalisés, car vous êtes en plus réalisateur. Le petit Jean-Paul qui débarquait à Paris pour faire le cours Florent, il aurait pu imaginer un tel parcours?
Ah, bah non. Vous imaginez bien que non. Ou alors, je suis complètement fou. Moi, je voulais être comédien. C'était mon rêve. Mais je ne pensais pas avoir tout ce parcours, toute cette chance que j'ai eue, extraordinaire. Et aujourd'hui, en effet, comme vous dites, même maintenant, de réaliser des films, de pouvoir venir dans votre émission. Enfin,
oui, c'est vrai.
Que des rêves de gosse, quoi.
Ça, vous ne pouvez pas, y croire. Alors, Jean-Paul Roux, vous êtes, me semble-t-il, un des acteurs français les plus populaires, plus bankable aussi.
Je pense,
parce que, bon, Jean Dujardin, sa cote est en train de baisser un petit peu.
Jeannot.
Non, mais ma conscience journalistique m'a poussé quand même à vérifier votre côté bankable, non pas avec un micro-trottoir, pas de ça ici, mais un micro-trottrage. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on a tout laissé.
Jean-Paul Rouve.
Il est grand, un peu dégingandé.
Il me fait penser à comment? À Buster Keaton un peu.
Les cheveux frisés et les yeux clairs. Non, j'aime beaucoup moi, il me fait rire.
Ouais, il a joué dans Les Bronzés, dans quoi il a joué d'autres?
Bah vous avez pas vu Podium, hein, avec où il fait Paul Naref dedans?
Les Tuches, le 3, il est vraiment super, hein, c'est vraiment mon préféré. Après le 2, bah enfin, ils sont tous bien, ils sont tous bien.
Ah mais oui, c'est Tuche, frites d'Afrique à l'Elysée, Jeff Tuche. Ah ouais, non, je suis trop fan, il est grave drôle. Ouais. Oh là 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 là.
Un type très sympa, je pense. Altruiste et sympa.
C'est Robin des Bois, c'est ça?
Bah, c'est le seul qui a réussi, donc ça va être le seul enfoiré de l'équipe, quoi.
Il y a des acteurs, ils arrivent sur scène et on se dit, ah, ah, celui-là, on va le revoir.
Jean-Paul, bisous.
Oh, la niaiserie de ce micro-trottoir. C'est incroyable. Alors, Jean-Paul, c'est le problème du micro-trottage. Beaucoup d'informations en même temps. Un, vous avez joué dans Les Bronzés. Vous avez appris dans
ce
micro-trottage.
Oui, mais ça arrive souvent.
Ça, c'est pas mal.
C'est normal, ça.
Dans l'équipe des Robin des Bois, vous êtes celui qui a le mieux réussi. Donc, sous vos airs de gentil, vous devez être une belle enflure. Ça vous confirmez, je pense.
Bien sûr, ça confirme.
En 2005, et donc bientôt 15 ans, vous disiez, j'ai la trouille que tout s'arrête. Tant que tu n'as pas 30 ans de carrière derrière toi comme Daniel Auteuil, tout ne tient qu'à un fil.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes plus serein aujourd'hui?
Oui, je suis plus serein aujourd'hui.
Vous êtes au niveau de Daniel Auteuil maintenant?
Non,
c'est bon.
En fait, ce qui m'a rendu plus serein, c'est il n'y a pas longtemps, c'est bizarre, hein, c'est Les Tuches, en fait.
Ah oui, c'est sûr que faire ça doit rendre un peu serein, ça, je pense.
Ouais, mais non, parce qu'en fait, c'est comment vous dire? C'est comment vous dites, ah là, j'ai fait quelque chose. C'est con, hein, mais peut-être que dans 30 ans, ça continuera à passer à la télé. Vous avez fait un truc qui.
C'est comme
qui
le
reste.
Gendarme de Saint-Tropez, presque.
Ben ouais,
pour
je pense à ça.
Vous qui adorez Louis de Funès,
mais je pense à ça, ouais. Je ne me compare pas à Louis de Funès, qui était un génie. Mais je me dis, ben, dans votre micro-totoir, ce qui me touche, c'est les petits, les enfants, ouais, qui disent Jeff Tuche, tout. Ça, vraiment, je suis heureux de ça.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
De l'aventure avec un grand A, nous passons à présent à l'aventure avec un petit A, Taoma 8 sur Word. Lui, le plus honneur qu'il soit jamais rendu, c'est Porte des Lilas pour un voyage d'études anthropologiques. Nicolas, un souvenir du 9-3 ?
J'étais allé une fois, c'est vraiment décadent.
Voici l'aventurier des mots, Nicolas Caro. Nicolas, aujourd'hui, un sujet sur mesure pour notre invité Jean-Louis Etienne.
Je sais que Jean-Louis Etienne M. Walden, de l'écrivain Thoreau, donc Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, qui est un grand classique de la littérature américaine, publié en 1854. Et donc, c'est Thoreau qui part dans la nature, au plus profond de la nature, au bord de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Et il vit comme ça, il regarde la nature, il écrit ce qu'il voit. C'est, a priori, ça n'a pas l'air comme ça, la grande aventure, mais en fait, c'est une aventure humaine incroyable et surtout hyper poétique, parce que cette tradition américaine du nature writing, on appelle ça comme ça, ouais. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, c'est, on dit la littérature des grands espaces, nous, quand on veut essayer de traduire, mais nous, c'est vrai qu'en France, on a plutôt une tradition citadine au 19e siècle, des Balzac, des Dumas, etc. On est moins dans les grands espaces, et la... Alors, les auditeurs auront plein de contre-exemples à donner, certes, mais aux États-Unis, c'est une vraie école littéraire. Donc ça commence avec Walden, qu'il faut lire, qui est magnifique, et ensuite, c'est vraiment le pionnier, et ensuite, il y a eu, mais je ne sais pas, 300 écrivains connus qui ont écrit sur la nature et le nature writing. Il y a eu Jack Kerouac, qu'on connaît sur La Route, donc là, qui est plutôt citadin, mais il y a aussi son grand livre qui s'appelle Big Sur. Quand lui fait comme Thoreau, il décide de partir, mais là on est au 20e siècle, il décide de partir en Californie dans le massif de Big Sur, c'est la forêt qui borde l'océan Pacifique au sud de San Francisco. Et là, il vit, et pareil, il décrit ce qu'il voit, et il y a des passages super parce qu'il est au bord de la mer, donc l'océan Pacifique, la nuit, et il entend l'océan. Et il essaye de retranscrire ça dans son livre, mais avec des sortes d'onomatopées. Alors, ça va vous faire un son super pour plus tard.
Ah, allez-y, lancez-vous.
Et il l'écrit comme ça.
C'est très bien, ça, Nicolas. Vous avez d'autres exemples ?
J'en ai plein.
N'hésitez pas. Hein.
Alors, ça, c'est pour Kerouac, mais surtout, là où vraiment tout s'est concrétisé pour de bon, c'est dans le Montana. Tout le monde se souvient de « Et au milieu coule une rivière ». On le connaît beaucoup en France avec le film joué notamment par Brad Pitt, mais c'est un livre au début qui a été traduit en français, La rivière du sixième jour, qui est une très, très, très mauvaise traduction à mon avis. D'ailleurs, on reprend depuis le film le titre original en anglais, Et au milieu coule une rivière. Et donc, c'est l'histoire de Norman MacLean, l'écrivain, qui raconte son enfance dans le Montana, à Missoula en particulier. C'est une ville incroyable, donc elle est au milieu du Montana. Donc le Montana, c'est les grands espaces, les grandes forêts, etc. Et il raconte ça et comment la pêche à la mouche devient le centre de tout et le centre des activités. La pêche à la mouche, c'est une pêche hyper littéraire, hyper poétique.
Pourquoi ?
Parce que à cause du bruit et à cause de l'environnement. Vous êtes, pour pêcher à la mouche, dans l'eau. Vous êtes plongé jusqu'à la taille dans l'eau et surtout il y a le bruit de la soie, vous savez, comme ça.
Et, on s'y croirait, on y est là. Et, je vois Brad Pitt, tu vois.
Et alors moi, je l'explique comme ça, cette tradition du Montana, parce qu'il y a eu une trentaine de grands écrivains qui ont habité à Missoula. Pas parce qu'ils étaient poètes ou écrivains et qu'ils sont partis à Missoula, parce qu'ils étaient à Missoula et ils sont devenus écrivains. C'est une sorte de mystère, comme ça, il y a un truc, un nœud dans l'univers à cet endroit-là, Missoula, qui crée des poètes à l'appel.
Il y a le faut partir en stage là-bas, Nicolas.
Il y a eu Légende d'automne de Jim Harrison. Alors pareil, qui a été adapté au cinéma. Et pourquoi ? Parce que ça fait des images fantastiques. Et en littérature, ça fait une poésie incroyable. La nature, c'est la poésie, mais c'est aussi l'aventure, évidemment, parce qu'il se passe toujours des trucs éventuellement dangereux. Et puis, c'est l'essence de l'humain. En général, dans ces romans-là, l'homme citadin, civilisé, reprend ses instincts primaires et revient à la nature avec tout ce que ça comporte de poésie, là encore. Et puis, ça continue aujourd'hui. L'année dernière, il y a Callan Wink, que vous connaissez pas encore, qui a juste publié un recueil. Le type ressemble à Brad Pitt. Il a 32-33 ans.
Déjà, je l'aime pas.
L'été, bah moi non plus. L'été, il est pêcheur à la mouche dans le Montana et l'hiver, il est surfeur en Californie. Et il
écrit, je l'aime encore moins. Plus ça va, plus que vous me racontez, là, ça me...
Mais il vit aussi à Missoula.
Et en plus, ça va devenir une star. Eh ben bravo. Ouais. Bah, je vous dis bravo, Nicolas Caro.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous?
Impeccablement.
Vous avez faim?
On va aller encore mieux. J'ai une fois que vous nous aurez donné votre recette délice in extremis aujourd'hui. Vous nous parlez du plat pays qui est le vôtre, Olivier.
Ah oui, et puis je vous propose de déguster avec moi un waterzooi, plat de ma jeunesse.
C'est important de noter que Olivier Pouls, c'est le seul belge qui fait mal l'accent belge. C'est un record, c'est quelque chose d'inouï. Il fait l'accent belge encore plus mal que moi, c'est incroyable.
Mais savez-vous que je peux m'appliquer quand même.
Alors racontez-nous, c'est quoi le waterzooi?
Alors c'est un plat mijoté à base généralement de volaille. C'est un petit peu notre blanquette à nous. C'est relativement facile à faire. Ça prend un tout petit peu de temps, mais pour les ingrédients, vraiment, tout le monde devrait pouvoir trouver ça aisément. Alors, si on est nombreux, on prend une volaille entière. Sinon, on prend des cuisses de volaille, plutôt des cuisses que des blancs d'ailleurs, parce que c'est meilleur, c'est un peu plus gras, ça a plus de goût. Il vous faut les légumes de saison. Alors, on va prendre des pommes de terre, des carottes, un oignon, un peu de poireau, du céleri, un navet, si vous voulez. Il faut un peu de crème, un tout petit peu de maïzena pour lier le tout. Et moi, je rajoute quelques champignons de Paris. Alors, c'est extrêmement simple. Vous allez faire un bouillon avec tous vos légumes. Vos légumes, vous allez les laver, vous allez les détailler en gros cubes. Et ensuite, vous allez les mettre dans de l'eau. On démarre à l'eau froide. Et vous allez porter ébullition et laisser cuire ça pendant une petite dizaine de minutes, un bon bouillon. Ensuite, dans ce bouillon, on va venir mettre la volaille. Et on va continuer la cuisson. Encore un bon quart d'heure, 20 minutes, de manière à ce que votre volaille soit bien cuite. On va sortir tout ça et on va débarrasser légumes et volailles. Et ce bouillon, on va le faire réduire de manière à ce qu'on ait vraiment du goût. Donc là, on met le feu très fort et on le goûte régulièrement. Et quand on trouve qu'il a suffisamment de goût, on va le lier.
Mais le problème, c'est que vous goûtez tellement qu'à la fin, parfois, il n'y en a plus. Il faut trouver le juste milieu.
Oui, il faut goûter qu'une petite cuillère, pas qu'une grande louche à chaque fois, une petite cuillère. Et donc, il faut le lier, c'est-à-dire lui donner un peu d'épaisseur, l'épaissir. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, ce que j'aime, c'est le plus simple, c'est avec un peu de maïzena. Donc, vous prélevez un peu
c'est
de votre bouillon, vous délayez votre maïzena dedans, une cuillère à soupe, vous versez tout ça et vous laissez cuire à petit bouillon pendant 5-6 minutes de manière à ce qu'il épaississe. On termine avec la crème. On rajoute les légumes et la volaille.
Vu le geste que vous venez de faire, il y a beaucoup de crème visiblement.
Voilà, c'est gourmand, il en faut. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à passer à table.
Mmh. Et en plus, c'est un plat qu'on peut garder et manger quand il en reste.
Exactement, c'est encore meilleur réchauffé. Voilà. Absolument.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Voici donc, en hommage au film qui vous a révélé au grand public, Les Beaux Gosses, un quiz sur les hommes ayant un physique que l'on peut raisonnablement qualifier d'avantageux. Enfin, en même temps, comme je suis dans le quiz à un moment, je ne sais pas qui a fait ce quiz, c'est un peu bizarre. C'est un vrai faux, vous répondez à tour de rôle, chaque bonne réponse vaut un point. Vincent Lacoste, Leonardo DiCaprio possède des parts dans une société américaine basée à San Diego, Doggy Cream, une entreprise qui propose des glaces pour les chiens. Vrai ou faux?
Faux.
Faux. Et c'est vrai que c'était tellement con que moi j'aurais dit vrai.
Ah non,
il possède une société de café équitable, Leonardo. Il a besoin de faire un peu de bénéf en plus.
Oui.
Bien joué.
Oui.
Quiz bogus pour vous, Eva Rock. David Pujadas. David Pujadas. Qu'est-ce que vous dites, Eva?
Non, j'ai rien dit.
Si vous vouliez, vous aviez commencé une phrase que vous êtes interrompu.
Non, ça se saurait si j'avais de l'humour.
David Pujadas a été renvoyé de son école car suite à un pari, il est allé au tableau de classe en slip. Vrai ou faux?
Ah, il est tout à fait capable de faire ça, j'irai vrai.
Ah, vous connaissez bien David?
Un petit peu.
Ça s'est passé dans l'Ain. Dans son lycée, il a été renvoyé 3 jours suite à un pari qu'il a lui-même qualifié de stupide. Question bonus que j'ajoute comme ça au hasard.
Oui.
Quelle est la spécificité de ce lycée dans l'Ain?
C'était un lycée où il n'y avait que des garçons.
Presque ça. C'était juste le même lycée que moi. On était dans le même lycée avec David Pujadas. Vous ne pouvez pas connaître
super,
la réponse.
D'accord.
Si, vous auriez pu réfléchir.
Mais le type, il est mytho. Il a fait ses études en Suisse. Après, il était je ne sais où.
Ça
et maintenant, il est dans
n'importe quoi.
C'est mon métier. Voilà. Attention. Une question, 3 propositions. Vous répondez ensemble. Brad Pitt est beau. C'est un excellent acteur. Et il a un talent caché. Lequel? 3 propositions. 1. Non, là, il n'y a pas eu de vanne encore. Ça n'a pas sens de rire. C'est-à-dire
Allez-y.
Que je veux bien que vous soyez mon sparring partner et que vous riez dans l'émission. Mais il faut pas rire n'importe quand, sinon ça dévalorise tout le travail fait ailleurs dans l'émission. Voyez. Alors, Brad Pitt a un talent caché, lequel? 3 propositions. 1. Il a fait des compétitions de Monopoly. 2. Il pratique la photographie animalière. Ou 3. Il fait du yodel, le célèbre chant tyrolien.
La deuxième, là, c'était quoi déjà?
Il pratique la photographie animalière.
Oui, je pense qu'il doit photographier des animaux. Ouais.
Pourquoi dans votre bouche ça sonne pervers? Photographie des animaux. Ouais. Et
le yodel, j'aime bien.
Vous aimez bien le yodel?
Ouais.
Elle va comme quoi la chance vous sourit.
C'est vrai?
Écoutez.
Yo,
C'est vraiment un grand acteur. Il a fait cette performance dans l'émission de l'humoriste Jimmy Fallon.
Ah, c'est génial.
Eh oui.
C'est une bonne des idées à Axel de Tarlé.
Non, non, alors surtout pas. Surtout pas l'idée à Axel de Tarlé. Restez silencieux. Vincent Lacoste, le quiz des beaux gosses continue. Un jour, j'ai vomi sur Claire Chazal, vrai ou faux? C'est moi.
Vrai.
C'est vrai, on ne révélera pas dans quelles circonstances, on n'a pas le temps, mais c'est vrai que depuis jour-là, chaque fois que je croise Claire Chazal, elle a un petit peu peur. Elle évite de me faire la bise. Oui. Enfin, dernière question qui va vous départager. Attention, Eva Rock, Chuck Norris s'appelle en réalité Carlos, vrai ou faux?
D'abord, je vois pas pourquoi questionnaire beau gosse, mais enfin.
Chuck Norris.
Ah oui, Chuck Norris. Ouais, bon.
Il est historique, voilà, Chuck Norris,
oui.
Quand même.
Non, c'est faux.
Eh bien, c'est vrai, de son vrai nom, Carlos Ray Norris, on embrasse l'acteur de Walker Texas Ranger et l'interprète de Papayou. Égalité dans ce quiz. Égalité. Bravo.
Il a 26
donc
ans,
à tous
Vincent
les deux.
Lacoste, j'aurais dû le laminer quand
vous
même.
Vous auriez dû le laminer, mais vous ne l'avez pas fait une fois de plus.
Je me suis fait avoir sur le Brad Pitt.
Sur le Brad Pitt, mais il était dur le Brad Pitt en même temps, il fallait deviner.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Faut-il acheter ou pas? Moi, franchement, quand je vois ce que me raconte un ami agent immobilier, ça me fait peur.
Ma véritable vocation, c'est de retaper les vieilles fermes. Avec 1 ou 2 millions, je la retape et je la revends à crédit, 7 ou 8, à des cons. Les gens sont cons, faut en profiter.
Alors, bon, Axel, les taux sont bas, mais est-ce vraiment le moment d'acheter?
L'extrait qu'on vient d'entendre, c'est ce que se dit en ce moment celui qui va vous vendre l'appartement que vous êtes en train d'acheter.
Je vous en prie, ne remuez pas le couteau dans la plaie, Axel.
Alors, les prix n'arrêtent pas d'exploser. Vous avez vu, même dans l'immobilier de bureau, là, sur les Champs-Élysées, on a battu un nouveau record, 600 millions pour un immeuble. J'ai fait le calcul. Si vous voulez ouvrir une petite échoppe de 10 mètres carrés dans cet immeuble, là, sur les Champs-Élysées, 10 mètres carrés, c'est petit, hein, il faut dépenser près d'1 million d'euros. Donc, vous vous rendez compte,
10 mètres carrés, voilà.
Donc, les prix à Paris, on a dépassé les 10 000 euros du mètre carré. Quelles sont les villes, à votre avis, moi je vais essayer d'être un peu interactif, de France, où les prix ont le plus augmenté au cours de ces 5 dernières années? On va essayer
Marseille,
de zoomer un petit peu.
Bordeaux,
non,
Bordeaux.
Pas du tout. Bordeaux, numéro 1.
Oui, parce que le TGV,
Nantes,
il va plus vite.
Plus 38%. Numéro 2.
Nantes.
Non, c'est pas Nantes. Mais
dans le public, est-ce que vous avez des idées?
Numéro 2, c'est Lyon, 27%. Voilà. Et numéro 3, Paris, 25%. Alors, Nice, je pensais que vous alliez me demander Nice,
oui, Nice,
Eva.
Oui.
Nice, plus 11%. Il y a des villes où ça baisse. Alors, c'est souvent les plus petites villes, ouais, de moins de 100 000 habitants. En tous les cas, pourquoi est-ce que les prix immobiliers montent autant? Eh bien, il y a deux choses. Il y a un, partout, on nous dit les taux sont très bas, c'est le moment d'acheter. C'est à la une de tous les magazines depuis au moins 10 ans. Vous savez, ça fait. Moi, depuis que je suis né, c'est le moment d'acheter. Hein. Bon, bref. Donc, ça, c'est la première raison.
Il a 70
raison.
Ans, quand même. Hein.
Et la deuxième raison, c'est qu'on a un petit peu peur de l'avenir et donc on se dit tout ce qu'il faut pour ces vieux jours mettre de côté.
Et c'est surtout que les autres placements ne rapportent rien en ce moment.
Exactement, les autres placements ne rapportent plus rien. Donc c'est ce que dit la Chambre des notaires. Elle dit l'immobilier maintenant c'est un placement de long terme et de confort. C'est-à-dire qu'on achète pour ces vieux jours et puis en plus on est chez soi, on est bien chez soi. Donc ça fait deux, vous voyez, on joint l'utile à l'agréable en achetant.
Mais alors est-ce que c'est une si bonne idée, Axel?
Alors voilà. La question est que les prix sont tellement explosifs que maintenant, les jeunes ne peuvent plus acheter. Vous avez vu qu'il y a un phénomène Tanguy qui revient.
Il y a on des reste Tanguy chez ses parents.
Eh ben oui, parce que dans les grandes villes, les jeunes ne peuvent plus acheter. Vous avez maintenant un quart des actifs de moins de 30 ans. Je vous vois faire la moue, Eve Roger. Vous
n'avez
pas lu
le
journal
acheter.
Ce matin. Un
si,
quart
si,
des lu, actifs si, de moins de 30 ans continuent de vivre chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès au marché immobilier. Donc, c'est quand même un problème. Et la question est, vous l'aviez dit, est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? Parce que quand les gens ne peuvent plus acheter, à un moment, s'il n'y a plus d'acheteurs, ça veut dire que les vendeurs ne peuvent plus vendre. Ah, ah, voilà. Et donc, si les vendeurs ne peuvent plus vendre, les prix s'écroulent. Donc, sommes-nous dans une bulle? Eh bien, il y a une étude de la banque UBS qui vient de sortir.
Ah, l'UBS, très bonne banque suisse.
Banque suisse, exactement.
Bien sûr. Et ça, c'est chez moi, je les embrasse.
Alors, qui parle de Paris, mais qui s'inquiète pour les Parisiens, qui se demande si effectivement, on n'est pas dans une bulle. C'est quoi une bulle? C'est quand les prix.
Et puis, il n'y a pas une bulle à Genève, en revanche. Hein. C'est 20 000 euros le mètre carré, mais là, il n'y a pas de problème, en revanche.
Ah ben justement, peut-être qu'il n'y a
Ils
pas de bulle
forts,
à Genève, parce que je vais vous dire. C'est quoi une bulle? C'est quand les prix se décollent des salaires. Quand les prix.
Ah oui, alors effectivement, il n'y a pas de bulle à Genève.
Les salaires.
Je vous confirme. Ouais. Je vous confirme.
Je prends Lyon-Bordeaux. Ouais. En 20 ans, Lyon-Bordeaux, les prix ont plus que triplé. Les salaires n'ont pas triplé. À Paris, pour acheter une famille avec deux enfants qui veut acheter un appartement de 75 mètres carrés, vous voyez, rien d'extraordinaire.
Prenez des exemples qui parlent à Jean-Paul Rouve, notre invité. 300 mètres carrés dans le Triangle d'Or, par exemple. Alors combien?
Donc, je reprends ma famille type, hein, qui veut acheter un 75 mètres carrés. Il faut qu'elle gagne 11 000 euros net par mois. Alors, si ce n'est pas une bulle, ça, qui gagne aujourd'hui 11 000 euros net par mois ?
Mathieu ?
Voilà. Taisez-vous, Ebre, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, voilà. C'était bien, c'est fini cette chronique. Allez,
tout ça pour dire qu'on est peut-être à l'aube d'une bulle. Et donc, quand on est à l'aube d'une bulle, vous savez, c'est comme avant le crack internet, il ne faut surtout pas être le dernier couillon à acheter.
Oh. Et merci Axel de me parler comme ça. Je vous prierai de m'appeler différemment. Je suis quand même votre chef,
monsieur
le
directeur.
Monsieur le directeur est peut-être un couillon, mais c'est votre directeur quand même. Ebre, Roger. Est-ce que nous avons le temps pour... Oui, nous avons le temps pour... La question vache de l'autre chroniqueur.
Alors, Eve. Monsieur est spécialiste de l'immobilier.
Oui, alors, madame ne dit pas, c'est une question que je lui ai soufflée avant.
Il m'a même imité le ton.
Vas-y, pose monsieur la question à laquelle j'ai déjà la réponse.
La question est, est-ce que c'est le moment de renégocier son prêt et à quel taux, Axel ?
Ah oui, dites-nous ce qu'on peut obtenir.
Bah oui, parce que je connaissais la question. J'ai regardé. En ce moment, les taux sont à 1,3. On dit qu'il faut renégocier si on est à un point de plus. Donc, tous ceux qui ont des taux immobiliers au-delà de 2,3%, ça vaut le coup de renégocier.
Ah bah ça,
et par exemple, si vous aviez fait un emprunt immobilier en 2013, les taux étaient à 3,5. Donc, ceux qui ont emprunté vers 2013-2014, oui, ça vaut le coup d'aller renégocier.
Merci Axel de Tarlet. Jean-Paul Rouve me fait signe qu'il s'en fout parce qu'il a acheté cash à l'époque.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Qui est pour vous, Claudia Tagbourne est partie vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté de manière trop flatteuse pour l'invité, mais un micro-trottrash. C'est comme un micro-trottoir, mais non censuré.
Voilà, j'ai peur.
Oui, Claudia Tagbourne, oui, l'humoriste.
Quand elle imite les Européens, quand l'enfant fait des bêtises, la maman, elle fait « Arrête, mon amour, arrête !»
Elle a l'air gentille, aimable, humaine.
Et quand c'est l'Africaine, c'est « Viens ici, tu vas voir ce que je dis !»
Elle s'assume comme elle est, voilà, elle fait des blagues sur tout, mais pas des choses trop choquantes, voilà, pas des choses trop sexuelles, etc.
C'est celle qui joue dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» le 2.
Elle est d'origine colorée, voilà.
Elle décrit bien la femme moderne, je trouve.
Elle est bien en chair, mais ça lui va très bien.
Quand on vient de loin comme ça, et qu'on arrive à où elle est, on n'oublie pas.
Bisous Claudia.
Oh, c'est mignon.
C'était pas censuré, mais c'était pas bien méchant. Hein. On sent que les gens vous aiment beaucoup, Claudia Tagbo. Il y a un coefficient sympathique énorme. Vous le sentez, ça, quand vous croisez des gens ?
Ouais, enfin, je sais pas. Moi, je me dis tranquille, quoi. Tout va bien. Enfin, prends ce qu'on te donne. Et puis, oui, les gens sont toujours bienveillants avec moi parce que je pense que je fais de même. Et puis, j'essaie toujours d'être... très discrète quand je suis dans la rue, en fait.
Alors attention, c'est un moment toujours compliqué pour moi, puisque j'avais dit à François-Xavier de Maison qu'il avait 3 enfants, il n'en avait qu'un, que j'ai dit à Abdel Malik qu'il avait 2 enfants, il en avait 3. Donc, je crois que vous êtes l'aîné de 7 enfants.
C'est ça.
Oh, bon sang, voilà, j'en ai une bonne pour une fois. Et dans une interview dans le journal Le Monde, vous dites « Professionnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensifs qui m'ont dit « Ok, on va te soutenir pour que tu fasses ce métier ». C'est rare, d'habitude, quand un enfant veut se lancer dans une carrière artistique, les parents sont plutôt frileux. Qu'est-ce qui les a convaincus ? Vous étiez une nature comique dès votre plus jeune âge ?
Non, je pense qu'il les a convaincus, c'est de se dire qu'on n'a qu'une vie. Et donc, quand un enfant veut faire quelque chose, il faut l'encourager, il faut l'envelopper, il faut lui dire aussi la vérité. C'est là que mon père, mes parents m'ont dit « Regarde, à la télé, des comme toi, il n'y en a pas beaucoup ». Mais tu veux vraiment faire ça? Ben écoute, on va t'encourager, vas-y, mais ne te mens pas. C'est-à-dire que ceux que tu vois là de l'autre côté, ils bossent. Donc bosse. Voilà.
À quel âge vous avez percé, Claudia Tagbo?
Au moment de la rencontre avec le Comedy Club.
Avec Jamel.
Voilà, avec le Jamel Comedy Club. Donc ce qui fait que c'est arrivé tard. C'est pour ça que quand les gens me disent ouais, j'ai dit ça va les gars, c'est arrivé super tard. Donc je sais que.
En même temps, vous êtes super jeune, non?
Ouais, c'est gentil, mais c'est pas comme ça que vous aurez la couronne.
Bien tenté, Manuel Dutheil. Je dirais que c'était pas très finement amené, c'était vraiment ça.
C'est que pour une fois, je pensais même pas à gagner.
Vous voyez les
filles, c'était une vraie gentillesse.
Quel acteur.
Oui, non, c'est gentil, merci beaucoup. Mais on est jeune, moi je dis toujours qu'on a l'âge de ce que l'on fait. Mais c'est pour dire que du coup, la tête, il n'y avait pas si longtemps qu'on mangeait des patates, donc on reste tranquille, tout va bien. Voilà.
Enfin, vous avez quand même embrassé Alain Delon, j'ai vu cette image.
Oui, c'est. Regardez bien. Le sketch, c'est lui.
C'est lui qui se jette sur vous.
J'ai juste dit, ok mec, c'est mon émission, tu vas pas tout griller, c'est bon, laisse-moi. Et donc, voilà.
Il faut rappeler, c'était sur Comédie dans l'émission d'Arthur, ce soir avec Arthur. Un grand moment.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Un son est si vite détourné. Axel pourrait par exemple révéler qu'il a un jour surpris Eve.
En train de sucer l'épargne des Allemands.
Oh ! Oh là ! Oh, ça suffit ! Je vous disqualifie tous les deux, hein ! Tous les deux ! Virez ! Scandale. Scandaleux de détourner les sons comme ça. Ouais, vous avez eu peur, hein ? Elle a eu peur, mais moi aussi j'ai eu peur. Elle me fait peur moi-même, tiens. Ève, parlez-nous plutôt de l'auto-hypnose. Cette technique qui pourrait m'aider, paraît-il, à vaincre ma jalousie maladive, pour de bon.
Absolument. L'auto-hypnose, c'est un processus qui consiste à se soigner tout seul de ce qui nous fait souffrir. Le tabac, les kilos en trop, la jalousie maladive. Mais c'est un...
Tu l'as en trop.
Alors là...
Oh non. Vous êtes vache.
Donc, je ne parlais pas de vous, évidemment. Un remède naturel qui est déjà en nous et qu'on ignore et qu'il faut réveiller. Alors, le principe, ce n'est pas du tout de s'auto-endormir, mais se mettre dans un état de rêverie. Alors, je vais demander à la régie de baisser un peu les lumières. Un état de rêverie, de divagation. Surtout, ne pas penser, oublier qu'on a un cerveau et confier tout son pouvoir à notre corps.
Eva devrait y arriver assez facilement. Ça y est, elle a déjà oublié.
Concentrez-vous, va plutôt.
Donc, vous n'avez plus de cerveau, mais vous avez un corps. Et c'est lui qui va nous guider vers la solution. Alors, j'ai conscience de
moi,
passer...
Moi, j'appelle ça une sieste crapuleuse, plutôt.
Alors,
ou une Patrick Bruel.
Oh Jean-Paul Rouve est notre invité. Alors, on va essayer de se concentrer.
Alors,
oui,
n'oubliez
c'est pas facile.
Que nous sommes dans un état de rêverie et de divagation, et qu'on n'a plus de cerveau, et qu'on donne le pouvoir à notre corps. Alors, j'ai conscience, là, en vous parlant, de passer un peu pour une folle, mais on va commencer avec un exemple qui doit parler à beaucoup de monde, c'est le tabac. Imaginez une conversation avec votre corps, avec votre peau, c'est elle qui souffre à chaque fois que vous sortez une cigarette de votre paquet. Et il faut faire cette conversation avec la peau. Et cette conversation, c'est Jean-Marc Benayem, le pape de l'hypnose en France, qui va vous la mimer. Écoutez.
La peau, si on lui demande « qu'est-ce que t'en penses, toi, ma peau ?», elle va dire « ah ben non, moi, c'est de la souffrance. Non, mais moi, je te dis que c'est un plaisir. Ah ben non, dit la peau, c'est de la souffrance. Ça m'encombre, ça me ternit, ça me fatigue. Donc, il faut rejoindre un corps qui n'en peut plus, tellement physique, tellement viscéral, qu'il y a quelque chose de rejet qui réapparaît, une allergie.
Donc rejet, allergie, parfois on arrête de fumer comme ça et c'est magique. Et ça marche aussi si vous êtes addict au sucre, ce qui est mon cas. Gâteau, confiserie, pareil, une petite discussion, non pas avec la zone du plaisir dans le cerveau quand vous voyez la mousse au chocolat. Il faut parler avec votre ventre, vos hanches, vos fesses, votre souffle peut-être, vos artères. Il faut commencer par ressentir ces parties du corps qui souffrent de ce trop-plein de sucre, soupeser la graisse avec les mains, et puis lui demander « Es-tu ok, mon ventre, pour que je mange cette mousse au chocolat ?» Et bien, vous allez voir, il va répondre non. L'auto-hypnose, c'est prendre conscience qu'on est en train d'empoisonner son corps.
Mais l'auto-hypnose, ça marche aussi pour soulager les douleurs, il paraît.
Alors oui, alors les douleurs du dos, par exemple. On a tous mal au dos, on est tendu, on est mal, on est inquiet. Alors là, vous allez au secours de votre corps avec un petit exercice très facile. Là encore, c'est Jean-Marc Benayem qui vous le raconte.
On peut très bien imaginer prendre une balle en mousse, par exemple, qu'on prendrait dans la main et qu'on serre fort. Cette contraction de la balle en mousse, ce serait ça notre dos. Et petit à petit, la main peut relâcher. Voilà, on prend du temps, là on le fait en accéléré. Et le relâchement de la main est vécu également dans le dos comme quelque chose qui relâche et qui permet enfin de trouver un équilibre et une souplesse.
Alors vous entendez, ça veut dire que petit à petit, c'est vous vous détendez. Je suis sûre que des gens dans le public ont déjà senti cette détente.
Tout ça, Ève, il faut quand même, parce que ça s'appelle l'auto-hypnose, mais il faut apprendre cette technique d'auto-hypnose. Donc
c'est
du coup, il faut demander à un spécialiste de nous inculquer ce que vous faites là.
Alors, livre de Jean-Marc Benayem qui s'appelle Hypnose-toi toi-même, c'est merveilleux. Mais sinon, je vous dis, c'est tellement magique qu'il suffit de se mettre dans cet état de rêverie.
Et ça marche aussi pour les difficultés relationnelles.
Alors là, je vais vous faire une confidence. Dans une autre vie, j'avais un patron, il était complètement colérique et tyrannique.
On embrasse Jean-Pierre Elkabbach. Bisous, bisous.
Et donc, je suis allée voir un hypnothérapeute qui m'a conseillé quelque chose qui marchait très bien.
Changer de radio.
Quand il était en colère, eh ben, imaginez un petit enfant, culotte courte, qui cassait ses jouets. Et donc, j'ai visualisé cette image pendant 10 minutes. Et quand tout d'un coup, je le voyais en face de moi en train de se mettre en colère, eh ben, je revoyais cet enfant en culotte courte en train de casser ses jouets. Et tout d'un coup, ça me faisait un bien fou et ça n'avait plus d'impact sur moi.
Merci Ève Roger. L'auto-hypnose aura-t-elle subjugué notre invité et notre public ? Axel de Tarlé, vous voulez rajouter quelque chose ?
J'ai ma question vache.
Oui, mais on n'avait plus le temps, mais allez-y.
Moi, j'ai une question vache, j'insiste. On va baisser la lumière, Ève. Vos paupières sont lourdes, vos muscles se détendent. Vous les refermez, vous êtes merveilleusement
bien. C'est qu'il
n'a
rien compris à ma chronique, parce que justement, j'ai dit on ne rentre pas dans cet état-là.
Je pose ma question vache. Vous glissez lentement vers un sommeil réparateur. Quelle est la chronique la plus réussie ? Est-ce la vôtre ou est-ce celle de robinet à spermatozoïdes ? Je crois qu'en vous, vous connaissez la réponse.
Alors,
je vais gagner.
Maintenant, parce que C'est impossible, vous n'avez pas encore parlé. C'est pas sûr que vous parliez d'ici la fin de l'émission.
Quand on pense qu'il y a trois mois, quand même, tous ces journalistes étaient éminemment sérieux, ils étaient derrière leur carte de presse et aujourd'hui, ils sont tous complètement tarés.
Et pas tarlés.
Oui, oh là, et humoriste amateur aussi, effectivement.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Anissée, reprenons nos esprits et évoquons votre chronique du jour sur les trottinettes. Ça devrait nous faire le même effet qu'une bonne douche froide.
Alors, on va parler d'une ceinture de sécurité pour ce trottinette. Ça paraît complètement bizarre.
Ça paraît même complètement con. J'oserais
non,
personnellement le mot.
Pas du tout. Alors, ça n'a rien à voir avec la ceinture de sécurité de votre voiture. Ah. Donc, ça ne vous aidera pas si vous cognez un pare-choc ou bien si vous en plafferez un piéton. Non, là, c'est une ceinture de sécurité qui va rendre la trottinette beaucoup plus stable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la trottinette, mais en général, tout le poids est sur l'avant. Il faut absolument appuyer sur l'avant. Et si on lâche une main, contrairement à un vélo en général, on n'est plus du tout stable. Et ce que va faire cette ceinture de sécurité, c'est que, alors on l'accroche sur le guidon, on la passe autour de sa taille et on se repose en fait sur l'arrière.
D'accord.
Ça met du poids
c'est
sur le guidon.
C'est une ceinture d'équilibre alors.
Voilà, et ça remet le poids, le centre de gravité de la trottinette directement au milieu de la. Alors je vous montre pour ceux qui sont sur Europe1.fr ce que ça donne, c'est que le centre de gravité de la personne n'est plus sur le guidon ni sur l'avant, il revient sur le milieu de la trottinette. Et ça fait quoi ? C'est qu'on peut lâcher une main. Et donc, on peut rider, comme on dit, avec
un parapluie.
Et on peut
téléphoner sur sa trottinette. Bah, voilà, ça, évidemment. C'est un bon conseil de sécurité routière. Merci,
on peut lever une main beaucoup plus facilement. On peut même lever un pied. On est beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille. Il y a même des gens qui le font avec...
pour faire une figure, parce qu'Anissée fait des figures.
Il y a des vidéos sur Internet pour qu'on se rende vraiment compte de ce que ça donne. L'idée, c'est vraiment d'être beaucoup plus stable, de pouvoir lâcher une main, de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement, parce qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur l'avant.
Vous l'avez testé ?
Je l'ai testé et franchement, c'est génial. Alors vraiment, on se repose un peu dessus, c'est un peu comme si on avait un fauteuil et on est beaucoup plus stable, on peut lâcher une main.
Et c'est adaptable sur n'importe quelle trottinette, par exemple celle dans la ville de Paris ou dans toutes les villes.
C'est juste un petit boîtier qu'on accroche sur le guidon et on met une petite ceinture autour de soi et c'est extrêmement pratique.
Vous nous parliez aussi, Anissée, d'un casque gonflable, Kezako.
Oui, alors le casque gonflable, là c'est plus classique. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents en trottinette, vous le savez, et les gens
et
sont blessés.
Grave, hein,
pour quelle raison ? Parce qu'ils n'ont pas de casque sur les trottinettes. Et pourquoi les gens n'ont pas de casque sur les trottinettes ? C'est tout simplement parce que on sait pas où le ranger. Oui. Une fois qu'on a fini son trajet, on ne sait plus où ranger le casque. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un casque qui est capable de se plier, de se gonfler et qui est capable de rentrer dans l'espace d'une boîte de cigarettes, par exemple, et même dans sa poche. Comme ça, on l'aurait toujours avec soi. On le sort quand on en a besoin.
C'est une sorte de casque airbag pour essayer de visualiser.
Exactement. Alors ça, c'est une société française qui le propose et c'est assez bluffant comme exemple. On va aussi le mettre sur Europe1.fr, cet exemple, parce que l'idée, c'est de l'installer demain directement sur les trottinettes qui sont en libre-service. Donc, l'endroit où vous allez, vous savez, scanner pour débloquer la trottinette, il y aura ce petit boîtier, donc grand comme une boîte de cigarettes, et ce boîtier va être capable de s'ouvrir, de gonfler automatiquement le fameux casque en question. Et une fois que le casque en question est gonflé, eh bien là, on peut le mettre sur sa tête. Et on a aussi une vidéo qu'on va vous mettre sur Europe1.fr.
Mais attendez, il faut le gonfler comme quand je gonfle le bateau automatique.
Non, ça se gonfle tout seul. C'est le système qui gonfle tout seul. Et après, une fois qu'on a mis son casque sur la tête.
Ah oui, on dirait un vrai casque, donc.
Oui, c'est un vrai casque. Alors évidemment, il est certifié, il est homologué. Donc si jamais on tombe, on est quand même protégé par ce casque. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fini d'utiliser, on le range, on le plie, on le dégonfle, on le remet sur le petit boîtier qui est sur sa trottinette. Et on n'a pas ce problème. Vous savez, aujourd'hui, quand on a un casque de trottinette...
Ça veut dire que tout le monde a mis sa tête dedans.
Ah oui, ça, je vois tout de suite. Moi, j'allais poser cette question, Claudia.
Il y a des scooters électriques aujourd'hui qui ont des casques disponibles.
Oui,
on peut mettre sa Charlotte dedans.
Donc ça veut dire qu'ils fournissent une Charlotte à chaque fois.
Alors, l'autre intérêt aussi, c'est que les casques ne sont pas obligatoires sur les trottinettes. Donc tout le monde n'est pas obligé de l'utiliser. Mais ça donne cette option supplémentaire, cette sécurité supplémentaire à ceux qui veulent utiliser. Qui veulent être un peu plus protégés quand ils utilisent leur trottinette.
Merci beaucoup, Anissée Mbida.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Si je vous dis qu'Alain Sirou va maintenant nous faire entendre des enregistrements inédits de tremblements de terre sur Mars.
Non !
Oh nom de Dieu ! Il va le faire ! Alain, c'est à vous.
Bah oui, vous avez incarné un scientifique et vous savez que ce sont de longues enquêtes, évidemment.
Ah oui, oui.
C'est un domaine passionnant. Donc la longue enquête dont je vais vous parler, c'est que s'est-il passé sur Mars depuis 3 milliards d'années ?
Ah oui, donc là, on part pour 4
heures.
Ah
oui, 4 heures de mission,
bah oui, évidemment, vous m'avez donné 2 minutes pour ça, très bien. Il y a 3,7 milliards d'années, sur Mars, il y avait finalement la même chose que sur la Terre. Il pleuvait, il y avait des rivières, il y avait des lacs, il y avait une atmosphère. Et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. La question, c'est que s'est-il passé ? Donc depuis qu'on peut aller sur Mars avec des robots, on va sur place pour enquêter et essayer de savoir où est passée l'eau, où est passée l'atmosphère, comment ça s'est passé finalement. Et depuis quelques 9 mois exactement, une sonde américaine qui s'appelle InSight s'est posée à la surface de Mars et écoute, comme si vous aviez, je mets la tête comme ça, comme si vous aviez l'oreille collée sur le sol, les bruits de Mars. Pourquoi les bruits ? Parce qu'on sait qu'à l'intérieur de Mars, s'il y a un cœur, si ça bouge, alors on aura des tremblements de terre de Mars.
Des tremblements de Mars, quoi.
Des tremblements de Mars. On sait pas.
Il faut être précis. Quand on parle scientifique, donc, on est précis.
C'est une expérience française par les gens du CNES, l'agence spatiale française, qui a consisté à amener un petit sismomètre, mais extrêmement précis, à la surface. Et je vous propose d'abord d'écouter, je dirais, ce qui a troublé la sonde, c'est-à-dire le vent sur Mars. Vous êtes comme un médecin.
Bon, ça, c'est un extrait de Star Trek. Franchement, c'est l'épisode 212.
Avec un stéthoscope, et vous entendez vibrer les panneaux solaire de la sonde qui s'est posée.
Mais attendez, pour qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait de l'atmosphère.
Il y a d'atmosphère, elle est très faible, elle est 1/100 de celle de la Terre, d'accord. Mais ça vibre un petit peu. Donc ça, on sait que c'est du vent. Ensuite, toujours en écoutant avec le stéthoscope, les scientifiques ont entendu ça.
Ah, ça c'est du djembé, ça.
Et là, ils se sont dit qu'est-ce que c'est, et ils ont trouvé finalement que c'était au coucher du soleil, des variations thermiques qui font que le sismomètre il se rétractait un petit peu. C'est comme quand vous avez votre voiture, que vous roulez, que vous vous arrêtez après une journée. Le moteur fait clic, clac, clic, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il se refroidit et les pièces mécaniques bougent. Bon, ça, donc ça, c'est du bruit parasite. On élimine. Et au bout du compte, ils ont entendu le vrai tremblement de terre. Écoutez bien, c'est très subtil.
Il faut dire qu'Alain Sirou fait des gestes très inquiétants en même temps dans le studio.
Mais ça fait peur.
C'est la croûte martienne qui craque. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements à la surface. Alors, ce n'est pas du tout ce que l'on connaît, je dirais, sur la Terre. Parce que sur la Terre, c'est quand même assez soudain. On a vraiment quelque chose de brutal. Là, ça nous donne des informations sur de petits tremblements de terre qui sont un peu comme des grondements. Et ces grondements renseignent les géologues sur la nature du sol. On sait que la nature du sol martien, à travers ces bruits-là, on peut encore réécouter. On sait qu'elle n'est pas pareille que sur la Terre. Elle n'est pas complètement pareille que sur la Lune. C'est un peu un mix des deux. Donc la vraie question, c'est à quand le Big One ? Quand est-ce qu'on va entendre finalement ce qui se passe au centre de Mars et qui pourrait faire quelque chose d'extrêmement puissant qui nous donnerait une radiographie de la planète ? Et ça, c'est extraordinaire parce que finalement, on aurait à ce moment-là une coupe de Mars et on pourrait comprendre beaucoup mieux ce qui s'est passé. Depuis 3 milliards d'années, le malade n'est pas complètement mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il frissonne encore.
Jean-Paul Rouvy, vous avez failli incarner le héros de Seul sur Mars. Ils ont pris Matt Damon.
Ouais,
mais pourquoi on vous a jamais vu dans un film de science-fiction ? Ce n'est pas un domaine qui vous intéresse ?
Ah si, j'adorerais, mais faire des films de science-fiction en France, malheureusement, il faut des budgets colossaux pour que ce soit impressionnant. Ouais. Hein, donc
c'est pas encore. Il n'y a pas encore le budget pour.
Non, il n'y a pas. Capitaine Marlowe, il y a. Enfin, voilà.
Les tuches sur Mars.
Oui, voilà.
Ça serait bon.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Vous me connaissez, j'aime bien rigoler, mais sous la cuirasse du fiel, il y a aussi un cœur qui bat. Un cœur d'enfant potelé qui ne demande qu'à s'émerveiller du monde qui l'entoure. Oui. Une sensibilité enfantine qui se manifeste notamment quand j'entends le mot ourson.
Pour vous rappeler du loup de Jean-Jacques Hano, on se rappelle tous du petit ourson qu'on voulait avoir chez nous.
Oh oui.
Bah en fait, il y en avait 12 petits
oursons. 12 petits oursons.
Et bien aujourd'hui, dans Régional Geographic, notre rubrique en province sur ces initiatives étonnantes près de chez vous, je vais une fois de plus retrouver mon âme d'enfant, puisque nous irons à la rencontre d'un passionné de musique qui a décidé d'enregistrer les sons de la planète. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il s'appelle Christian Holl et lui, ce qu'il traque, c'est l'âme sonore du monde. Des bruits que vous n'entendrez jamais. C'est comme si votre oreille se retrouvait au cœur d'un arbre ou au cœur d'une pierre, à l'intérieur de la matière. Alors, c'est un peu compliqué, c'est vrai, pour mieux comprendre, je vous propose une petite démonstration. Écoutez. Ça, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ?
Une grenouille ?
Une grenouille, mais non, c'est les bruits de la terre, et là, c'est les bruits des animaux.
Ouais, votre ventre qui gargouille avant,
ah, oui,
quand vous avez faim.
À l'heure du goûter.
Ouais.
Non, c'est pas ça.
Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que c'est, Nathalie ?
Eh bien, c'est de la sève qui coule à l'intérieur d'un baobab. Un son totalement unique, attrapé grâce à des capteurs super puissants, vous imaginez, stéthoscope et autres micros. Christian Holl a mis 6 mois pour élaborer cet enregistrement, trouver la technique permettant de capter le cœur de la matière. Lui, qui en plus n'entend que d'une oreille, propose une relecture de notre planète à travers les sonorités, parfois même un bond dans le temps.
Je raconte l'histoire d'un pays, d'une culture à travers le son. Comme je voulais, par exemple, enregistrer, aller sur les traces des sons de la préhistoire. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la préhistoire? Eh bien, il nous reste les varans de Komodo, qui sont d'ailleurs inscrits au patrimoine mondial. Et j'ai voulu enregistrer la pulsation cardiaque du varan, c'est une chose qui n'avait jamais été faite. Et on est dans un tambour animal qui peut nous émouvoir énormément, parce qu'on est à la genèse de la Terre. C'est fabuleux de voir qu'il y a cette passerelle grâce au son entre le passé et le présent, en fin de compte.
Mais comment moi, il a fait ça, Nathalie de...
Bah, avec un stéthoscope et un petit varan.
Vous avez vu la tête du varan,
bon,
faut y aller.
Il faut un petit peu de courage, Eva. Vous savez, je n'en suis pas démunie.
Oui,
ça ne vous fait pas penser un peu à Jurassic Park?
Moi,
ça
m'a
fait penser
à
ça.
Ah si, un peu, c'est vrai, c'est vrai.
Alors cette fois, je vous propose un peu plus de douceur et de poésie. Écoutez encore, ça sort de la Terre.
Un geyser.
Un volcan?
Non.
Ah, ou des fourmis qui sortent de terre?
Non, c'est pas tout à fait
un
ça.
Un dîner à l'Indien qui passe mal.
Ça va vous faire rire.
C'est la pousse
d'un haricot vert.
Mais il pousse vite, cet haricot. C'est un haricot magique.
Alors, écoutez les explications de notre chasseur de son.
On me dit à l'écoute de ça qu'on n'a plus envie de manger des haricots. Mais je trouve que c'est au contraire fabuleux, parce que ça permet de montrer comment, à travers quelque chose qui peut paraître anodin, toute la beauté et la réalité de la vie. Alors, ce n'est pas du tout accéléré, c'est juste remonter. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur mon magnétophone, je coupe et j'édite, et j'ai 72 heures pour 20 secondes.
Voilà la pousse d'un haricot vert tout sonore en 20 secondes. Je pense que vous n'aviez jamais entendu ça. Et Christian Holl prépare son prochain voyage. Ce sera l'Égypte, aux sources du Nil, pour capter encore de nouveaux sons.
Ah, c'est génial.
Eva est émerveillée.
Ah, je suis émerveillée.
Elle aimerait entendre la pousse d'une truffe, d'une truffe blanche d'Alba.
Je vais demander à Christian Holl.
Merci d'avance. Merci beaucoup, Nathalie Chevance.